Cette émission a été rendue possible par le CNC et par la Commission nationale du débat public.
Et les amis, je vous propose que sans plus tarder, nous recevions sur ce plateau notre invité politique cette semaine, le président de la Commission des lois, le député En Marche, Sacha Houlié. Bonsoir Sacha Houlié.
Bonsoir Jean Massier.
J'ai deux heures d'émission dans les pattes, je suis claqué. Sacha Houlié, pas député En Marche, mais Renaissance, puisque ça a rename, même si ça change rien. Mais bref, merci beaucoup d'être avec nous. Pour vous présenter un peu rapidement.
C'est quand même 100 députés de moi.
Hein. Ouais, c'est vrai, vous êtes pris une toule un peu, ouais. C'est vrai, non, c'est vrai, j'avais oublié. Pour vous présenter un petit peu Sacha Houlié, on a Malek ici. Malek, vous vous connaissez avec Sacha Houlié?
On se connaît.
Ah, raconte.
On était membres tous les deux des Jeunes Socialistes, il y a maintenant près de 10 ans. On faisait partie, Sacha, de la... Donc on va se tutoyer, parce qu'on va faire de cinéma. On faisait partie de la même famille politique avec... T'as regardé, je fais la gueule.
Voilà. C'est une vraie photo officielle de Malek et Sacha Houlié.
Mais c'était pendant le quinquennat de François Hollande.
Non. Alors, c'est pas Sacha à côté. Sacha était en tribune à ce moment-là. Je faisais pas la gueule pendant que tu parlais, Sacha. mais donc, à ce moment-là, congrès des Jeunes Socialistes, on a fait partie donc, de la même famille politique. On était dans deux courants différents, donc on avait des petites divergences, mais on faisait partie de la même famille politique. T'as créé les Jeunes avec Macron, t'as rejoint En Marche. Et t'es toujours aujourd'hui membre d'une majorité qui a fait voter une loi immigration grâce au vote du Front National. Et même si tu as dit ton opposition, tu y es encore. Donc Sacha Houlié, même si on faisait partie de la même famille politique, pourquoi je suis resté un mec de gauche et pourquoi t'es devenu un mec de droite?
Alors, Sacha Houlié, je suis pas sûr que tu sois resté un mec de gauche et je suis sûr que je suis pas devenu un mec de droite. Ça, c'est pour ma première réponse. Mais sur la loi immigration, moi, j'ai défendu une loi immigration dans laquelle on pouvait tout dire. Et effectivement, on pouvait dire, comme le défendait le ministre de l'Intérieur, que les étrangers qui sont des délinquants, on pouvait les reconduire, et donc on devait les reconduire y compris. Et j'ai défendu une mesure qui n'a pas prospéré dans sa façon finale, en disant que tous ceux qui étaient des travailleurs, en revanche, on devait les régulariser. Et j'y crois sincèrement, et d'ailleurs, vous voyez que le gouvernement essaie, parce qu'il n'a pas fait voter la loi qu'il devait faire voter sur cet article 3, celui qui devait régulariser les travailleurs dans les métiers en tension, ils essaient de récupérer tout le dispositif par d'autres moyens. Ils nous disent qu'il faut régulariser les médecins, il faut même en faire venir. Ils nous disent qu'il faut reclasser les métiers en tension et que dans la restauration, on a besoin de gens. Ils nous disent que dans le BTP, ben, on a aussi besoin de gens. Et en fait, ils essaient de faire fonctionner la loi sans avoir voté la loi. C'est la circulaire d'application du ministère de l'Intérieur qui explique qu'il faut 10 000 régularisations. Donc, au fond, je me dis que j'avais peut-être un peu raison et qu'il aurait fallu faire preuve d'un peu plus de courage politique sur cette question-là. Et c'est ce que j'ai défendu jusqu'au bout, y compris en allant au bout de mes convictions, parce que j'avais dit qu'il y avait 30 mesures qui étaient anticonstitutionnelles. Et elles ont été censurées pour ça.
Vous faisiez partie de la bande de Poitiers. On appelait ça la bande de Poitiers, ce collectif de jeunes.
Toujours parti, oui. En plus, moi, je suis député de Poitiers. Alors,
Bah oui, député de Poitiers, mais dans la bande de Poitiers, il y en a maintenant qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon.
Et Aurélien Taché?
Ouais. Ouais. Et du coup, comment est-ce que
j'aurais pas pu soutenir Jean-Luc Mélenchon, j'ai trop de désaccords avec lui. Je trouve plus d'accord avec Raphaël Glucksmann d'ailleurs, sans pour autant voter pour lui, hein, je tiens à le dire. Voilà. Mais vous avez compris que moi je suis plutôt deuxième gauche, rocardien, strauss-kahnien, Glucksmann, enfin toute cette branche-là.
Et qu'est-ce qui reste de gauche dans cette branche?
Je pense que pour la question de la dérégulation mondiale de l'économie notamment, quand on voit la façon dont les États sont dépassés sur toute la question des taxes, soit sur les super-profits, soit sur les transactions financières, soit encore sur toutes les mesures qui sont celles de l'impôt minimum qu'on a mis en place au niveau européen et qui avait été préconisé par l'OCDE, on voit que comme toute l'économie a dépassé les États, on a plutôt intérêt de s'entendre avec nos voisins si on veut contraindre aujourd'hui les grandes entreprises.
Là, on a encore eu des annonces sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la troisième depuis 2017, qui va encore durcir sur les plus précaires.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a de gauche là-dedans?
Alors, sur la question des précédentes réformes de l'assurance chômage, l'idée était de dire, et c'est pour ça que les premières, je pense qu'elles avaient un intérêt, de dire qu'on avait un retour vers l'emploi. Donc on avait une réduction de la durée de cotisation par rapport à la réforme de 2008. Qu'est-ce qui s'était passé en 2008? 2008, le chômage explose. Donc, on assouplit les règles. Depuis 2019, le chômage baissait fortement. Le chômage, c'est pour les jeunes et pour les moins jeunes. On devrait être poli avec les anciens. Et donc, on restreint les règles et ça fonctionne. Et il y avait cette dynamique de retour à l'emploi. D'ailleurs, on a nous-mêmes très, très mal vendu la façon dont on a fait le RSA, parce que le RSA, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, c'est la garantie jeune ou le contrat d'engagement jeune pour tout le monde. Et c'est très bien. Et notamment, dans le département du Nord, vous avez grâce à ça moins 15 000 bénéficiaires du RSA, pas parce qu'on les a radiés, mais parce qu'ils ont retrouvé du boulot. Donc tout ça, ça allait. Aujourd'hui, la réforme qui est proposé sur l'assurance chômage. J'ai dit mes réserves ce matin, j'aurai l'occasion de les dire encore ce week-end. Je pense que c'est une mesure d'économie, ce n'est pas une mesure de retour vers l'emploi, et je pense que ce n'est pas une bonne idée pour cette raison-là.
Sacha ?
Mais alors du coup, c'est quoi la différence entre l'aile gauche de la Macronie dont vous vous reconnaissez et le PS ? Idéologiquement, c'est quoi votre
Vous venez de dire que vous souteniez Glucksmann.
Non, ouais.
C'est pas ce que j'ai dit. Ah bah,
vous avez dit que vous étiez séduit par Glucksmann.
Non, je dis que ce qu'il défend au Parlement européen est intéressant. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé la loi sur les ingérences étrangères qui a été votée. Et ça pour le coup, c'est assez clair. Moi, j'ai fait campagne très activement dans mon parti pour que ce soit Valérie Ayé qui soit investie. Et d'ailleurs, elle a dit aussi ses proximités dans le début de la campagne avec
mais
le candidat.
Du coup, il y a eu un peu de démocratie sur le choix de la tête de listes européennes quand même.
Bah, je ne sais pas s'il y a eu de la démocratie, mais en tout cas, en octobre, ça paraissait pour beaucoup de gens une idée un peu farfelue, et désormais, c'est notre candidate, donc ça prouve qu'on peut convaincre. Et d'ailleurs, si vous me posez la question, à quoi je sers dans la majorité? Dès l'été 2022, on avait poussé la taxe sur les super-profits, donc la fameuse crime aujourd'hui telle qu'elle est proposée. Elle ne rapporte pas autant qu'on voudrait, 300 millions au lieu de 3 milliards. On nous a dit, débrouillez-vous pour l'améliorer. Je vous assure qu'on a beaucoup d'idées et qu'on va le montrer. J'ai voté aussi les amendements sur les super-dividendes. C'est pareil, ça aussi, ça fait son petit chemin. Mm-hmm. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de députés qui, dorénavant, vont la soutenir. Et avec le député Marc Ferracci ou avec le député Jérôme Guedj, dans le dernier budget, on a réussi à imposer au gouvernement la baisse des allègements de cotisations, donc en fait la baisse des exonérations sur les cotisations. On a récupéré 800 millions d'euros au budget de l'État sur un sujet sur lequel on se battait maintenant depuis 4 ans. Donc je comprends que pour ce sujet-là, pour beaucoup, c'est pas forcément visible. C'est du combat de rue quasiment au Parlement où on sort de son bureau,
on
les
va
armes
en parler du Parlement. Pour se battre. Safia.
Ouais, moi j'ai l'impression que là vous avez parlé de la loi sur les ingérences étrangères, j'ai l'impression que c'est la dernière tentative de la Macronie pour essayer de tenter une esquisse de combat contre l'extrême droite par rapport à Poutine et les liens avec le Rassemblement national. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai parti d'une génération qui a été marquée par la violence politique de la Macronie suite à la réforme des retraites, suite au traitement des jeunes des quartiers populaires, suite aux révoltes pour Naël, et par la loi immigration. Vous savez, moi, je suis binationale, je suis franco-algérienne. Et cette loi, elle a été d'une violence sans nom, en fait, pour nos grands-parents, nos parents. Et moi, j'ai l'impression d'être sur un siège éjectable. Vous avez dit, eh bien, que vous avez voté contre, vous hésitiez à démissionner. En réalité, vous êtes resté.
Non, pas dit que j'hésitais.
En fait, c'était pas sûr. Et puis, en fait, finalement, on apprend que vous étiez peut-être effectivement dans l'attente et bien d'un poste ministériel. Mmh. Au final, monsieur Houllier, est-ce que vous n'êtes pas simplement dans une démarche carriériste?
Ouais. Alors, j'y réponds à vos trois sujets. D'abord, un sur la question de la réforme des retraites. Moi, j'aime bien qu'on raconte. Et moi, c'est pour ça que j'ai plaidé pour qu'on dise la vérité dès le départ. Il n'y avait pas suffisamment d'argent pour assurer la retraite de tout le monde. Donc, on n'avait pas 10 000 choix. Il y avait un allongement de la durée de cotisation qui ne rapportait pas assez. Et il y avait une question de la report de l'âge légal. C'est ce qui a été choisi. Et on est allé au bout des choses en l'assumant, en disant pour que tout le monde ait une retraite, il faut cotiser un peu plus. Ça, c'est la première chose. On assume. Et pour le coup, j'assume ce vote, même s'il ne plaît pas, même s'il est déplaisant, même si pour le coup, il n'est pas populaire.
Le Conseil d'orientation des retraites ne décrivait pas ce scénario catastrophique. Il n'empêche.
Pour le coup, et dorénavant, le Conseil d'orientation des retraites dit que ça ne suffit pas pour.
C'est normal, vous avez changé tout le monde.
Alors, j'ai pas ce pouvoir perso. Sur la question de l'affaire Naël et de la question dans les quartiers populaires. En tant que président de la commission des lois, j'étais le premier non seulement à aller visiter l'IGPN pour regarder ce qu'il faisait, la façon dont il conduisait les enquêtes, et on a conduit la première mission de contrôle en convoquant la directrice de l'IGPN et le directeur de l'IGGN devant la commission des lois, toutes questions ouvertes pour que le Parlement joue son rôle de contrôle sur ce sujet. Donc j'ai bien conscience qu'il y a parfois... J'ai bien conscience, sans dire parfois, qu'il y a une confiance qui est rompue entre une partie de la jeunesse et les policiers. Et c'est aussi mon rôle que de travailler pour que chacun puisse s'expliquer sur ses missions, la façon dont les policiers qui fautent sont poursuivis et la façon dont ensuite ils sont sanctionnés. Et ils doivent l'être. Donc ça, c'est un élément. Sur la loi immigration, pourquoi je suis allé au bout? Parce que je vous ai dit que j'étais convaincu sur le fait qu'il fallait faire les deux. Et donc, effectivement, qu'il fallait considérer les étrangers pour ce qu'ils faisaient, plutôt que pour ce qu'ils étaient. Donc plutôt qu'on dise « vous êtes étranger, donc vous êtes mauvais », est-ce que vous êtes étranger, donc est-ce que vous travaillez ? Oui. Est-ce que vous méritez des papiers à ce titre-là ? Oui. Est-ce que vous commettez des actes de délinquance ? Oui. Est-ce que vous méritez d'être reconduit pour ces raisons-là ? Oui. Et donc de cette façon-là, c'est une façon d'aller au bout des choses en disant « on vous intègre comme tout le monde et on vous sanctionne comme tout le monde ou on vous récompense comme tout le monde pour l'attitude que vous avez. »
Pas comme tout le monde, c'est une double peine.
Je ne vais pas esquisser la dernière question que vous avez posée. Vous avez posé la question des postes ministériels. Oui, moi, je suis passionné de sport. Et donc, quand il y a eu l'opportunité d'aller au ministère des Sports au moment de la loi JO, Oui, bah, j'ai cédé aux sirènes parce que honnêtement, je suis fan de l'Olympique de Marseille, je suis fan de moto, je suis fan de tous les sports, je fais tout le Tour de France, y compris maintenant dans les voitures. Voilà. Donc j'aurais kiffé. Voilà. Donc,
je
cède à ce reproche.
Est-ce qu'être fan de l'Olympique de Marseille, c'est devoir totalement rompre avec la séquence politique qui a été la loi immigration ? Je rappelle quand même que vous avez dit quelque chose là qui était important, c'est... Il y a d'un côté les travailleurs immigrés et d'un côté, vous savez, tout l'imaginaire autour des immigrés délinquants. Mmh. Vous savez, pendant cette période-là, il y avait des nervis fascistes qui défilaient partout en France, notamment à Lyon, avec un slogan « immigration égale délinquance ». Cette loi immigration, elle a normalisé des idées d'extrême droite. Est-ce que ça ne vous dérange pas, au vu de la position que vous prenez aujourd'hui comme politique dite de gauche de la Macronie, de faire partie eh bien, d'une majorité qui pave la voie à l'extrême droite ?
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, sur la question des associations lyonnaises, qui se reconstituent assez régulièrement. Avec mon collègue Rudy Gauze, on les fait dissoudre à chaque fois, y compris on engage les procédures, on fait les signalements article 40, on s'assure que le ministère de l'Intérieur les fasse dissoudre, et ça fait l'objet de plusieurs décisions, Bastion Social notamment, Génération Identitaire, etc., pour qu'on ait des décisions de dissolution de ces associations qui agissent de la sorte. Ensuite, moi je pense qu'il faut, traiter des sujets. Soit on réagit par rapport à des sujets qui sont posés sur la question des travailleurs dans les métiers en tension et on montre... Enfin, les travailleurs dans les métiers en tension, c'était quand même la première fois depuis 20 ans qu'on parlait positivement d'immigration. Donc effectivement, il y a tous ces sujets qui reviennent, qui sont récurrents avec tous les ministres de l'Intérieur, de droite, de gauche, qui depuis des années ont laissé glisser l'idée que immigration égale délinquance. Voilà. Et nous, on a voulu porter dans la loi un message nouveau qui n'avait jamais été porté jusqu'à présent, jamais en tout cas depuis le gouvernement de Lionel Jospin, que oui, il y avait un bon visage de l'immigration en France et que c'était presque aujourd'hui la majorité des personnes qui sont concernées par cela. Bon, avec les résultats qu'on connaît, mais c'est au moins le discours qu'on a tenu et sur lequel on s'est engagé. À la fin, quand même, je rappelle que la motion de rejet préalable, le fait qu'on n'ait pas examiné le texte en séance, il a été voté et par la gauche et par le RN, et par les Républicains. Et c'est comme ça qu'on s'est fracassé. Hein. Parce que le texte, il sortait de la commission des lois, il prévoyait la mesure que je vous...
C'est quand même très étrange parce qu'on a en face de nous un président de la commission des lois qui est censé être une cheville ouvrière du travail politique du gouvernement, et vous êtes en désaccord avec le gouvernement sur plein de trucs.
Ça
vous multipliez les points de désaccord. Non mais qu'est-ce que ça dit sur le rôle du Parlement ? Le président de la République, le Premier ministre, Gabriel Attal, peuvent très bien, en fait, ne pas être d'accord avec le président des lois, de la commission des lois. Après tout, on s'en fout.
Non,
on peut gouverner ce pays sans le Parlement, on s'en branle.
D'abord, ça veut dire que vous avez, quand on a fait le renouvellement du Parlement, il y a eu un renouvellement total. Et donc, il y avait parfois une certaine pudeur, une frilosité, une immaturité, diront des gens, quand on est arrivé au Parlement, on considérait qu'on devait être nécessairement en accord avec le gouvernement parce qu'on faisait partie de la majorité. Et puis, il y a ce spectre qui est celui des frondeurs. Enfin, il y a toute une partie des gens qui ont été terrorisés par le fait d'être des frondeurs ou pas des frondeurs. Ouais. Nous, on n'est pas des frondeurs.
C'était arrivé au cours du premier quinquennat, il y a eu un groupe de frondeurs.
Ouais, mais il y a une ligne politique sur laquelle on s'est engagé en 2017. Et moi, mon objectif, c'est pas... C'est vrai que c'est marrant de voir le cœur avec le président, et on peut avoir eu ce côté un peu fan au départ, en 2015. Mais la ligne politique que l'on défend, c'est celle de 2017. Et moi, je cherche pas à savoir si je suis en accord avec Gabriel Attal ou avec Emmanuel Macron. Je cherche à savoir si ce que j'ai promis aux gens, je le respecte par rapport à ce pourquoi je me suis engagé. Voilà. C'est ce que je cherche à faire. Et ensuite, c'est le rôle du Parlement que de dire à un moment donné, quand on est en désaccord, on l'exprime, on contrôle et on vote et on tranche. Et si malheureusement, il y a une partie des gens qui sont pour créer une majorité, pour être pour des choses que j'estime ne pas avoir promis en 2017, je perds le combat, mais je le mène quand même. D'autant que je vous ai dit, et je vous rappelle sur ce sujet, sur la taxe sur les superprofits, perdue en juillet 2022, demi-remporté sur la loi de finances qui a suivi au mois de novembre. Et comme on n'a pas totalement gagné le combat, je peux garantir qu'aujourd'hui, il y a une majorité de députés chez Renaissance pour voter une taxe sur les superprofits qui soit plus importante et qui ramène vraiment les 3 milliards d'euros promis.
Ça,
c'est le combat culturel qu'on doit conduire. Au MJS, on disait que c'était la version cramsciste de l'histoire, où il fallait gagner la bataille des idées avant de gagner la bataille électorale. Beaucoup, beaucoup d'endroits... On perd la bataille des idées. Ce que vous dites est vrai sur la question de l'immigration, notamment. Et nous, on essaie de mener cette bataille en ayant des marqueurs qui permettent d'emporter l'adhésion populaire, qui permettent, par des évidences, ce qu'on dit aujourd'hui le bon sens, permettent de marquer des points pour un camp qui, j'espère, n'a pas totalement perdu aujourd'hui.
Malek ?
Rapidement, parce que je trouve que tu as un petit peu esquivé la question, on va se dire les choses. À notre époque, il y avait les frondeurs en 2015, les frondeurs au gouvernement de Manuel Valls, et on était les premiers à appeler à la clarification, à dire, ben voilà, il faut nous dire où est-ce que vous vous situez. tu dis qu'au début, il y avait peut-être un côté fan, mais que bon, aujourd'hui, t'es là parce qu'il y a une ligne politique. La ligne politique, c'est que, et tu l'assumes, puisque tu l'as dit, c'est d'avoir mis donc les travailleurs au travail encore plus longtemps jusqu'à ce qu'ils se tuent, parce que les plus précaires ne voient même pas l'âge de la retraite. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui l'a dit. Tu aujourd'hui soutiens ce qu'on nous annonce en réforme sur l'assurance chômage. Il y a un Bruno Le Maire, mais non mais je, on va voir. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que la clarification, c'est est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part. Et moi, ce que je vois, c'est que t'es encore dans cette majorité là avec tout ce qui se passe. Et c'est même pas moi qui dis qu'il y a une dérive droitière. C'est même plus une dérive à ce stade. C'est un ministre sous l'anonymat, mais qui le dit ce matin dans les journaux en disant que les 7 ans là de macronisme qu'on vient de se manger. Ben, c'est une politique de droite. Donc, aile gauche, pas aile gauche, en réalité, c'est quoi vos victoires à part n'être que l'alibi de politiques de droite ensuite qui sont appliquées ?
Alors, d'abord, sur la question de ce que tu as dit sur les retraites. L'espérance de vie en France te contredit sur la question de dire est-ce qu'on peut travailler plus longtemps ou pas. D'ailleurs, il y a aussi une fausse promesse qui a été faite par nos aînés, et je ne vais pas rentrer dans un conflit générationnel, mais on pourrait. Et je dis, mais on pourrait, parce qu'on a peut-être fait des promesses à toute une génération qui a mieux vécu que nous, qui est une génération aujourd'hui qui est à la retraite, et nous, on paye les pots cassés de tout ça. Parce que nous, on n'a pas eu le plein emploi, parce que nous, on n'a pas eu la retraite à 60 ans, parce que nous, on n'a pas eu la libération sexuelle, parce que nous, on n'a pas eu les grandes libertés, et notamment des médias. Rappelez-vous, quand on était gamin, ce que ça disait sur Canal+, par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut s'en prendre aussi à ceux qui nous ont précédés, plutôt qu'à s'en prendre à ceux qui assument un peu les conséquences et qui disent le modèle social, il faut mieux le protéger pour ceux qui viennent. Que faire une croix dessus et qu'à la fin, personne en bénéficie. Sur la question de l'assurance chômage, encore, on reprend. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu tout un effet. Moi, j'ai défendu les garanties jeunes depuis 2013. C'est-à-dire qu'on était allé les chercher au congrès du Parti Socialiste Européen. On a eu toutes les peines du monde à le faire appliquer au gouvernement Hollande. Et on a réussi à les généraliser en 2017, aujourd'hui dans le contrat engagement jeune. Quand le gouvernement dit que le RSA activité, le RSA à 15 heures, là, c'est pour remettre tout le monde au boulot. Ok, certes, mais c'est de la com politique. Parce
excuse-moi,
que la réalité,
c'est comme ce que tu nous as dit tout à l'heure sur les moins 15 000 bénéficiaires du RSA. C'est des emplois, oui, mais à quel prix, à quel salaire? Mais c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question.
C'est souvent des emplois à temps plein, et que par ailleurs, le SMIC dans la campagne qui était la campagne de 2022. Moi, j'avais une adversaire de la France Insoumise. Elle m'expliquait qu'il fallait le SMIC à 1400 euros, ça y est.
Mais c'est l'inflation qui fait ça.
Ça va. D'accord.
On a appliqué le programme de la France Insoumise. Pas celui-là.
Et donc, Sacha,
matériellement, c'est le
réforme de l'assurance chômage, TVA sociale que nous pose Bruno Le Maire et tout ça.
La TVA sociale, ça n'existera pas.
Mais d'accord.
Heureusement d'ailleurs, parce que c'est totalement inflationniste.
Tout ça cumulé. Est-ce que si la réforme de l'assurance chômage telle qu'elle est décrite là, si elle est appliquée, est-ce que toi tu restes ou est-ce que tu te barres? C'est ça la question.
Non, d'abord, je rappelle quand même qu'il y a une négociation avec les partenaires sociaux. Et deux, claquer la porte pour laisser les autres faire dans son dos, c'est la meilleure façon d'avoir des lois comme la loi immigration.
Mais ils font dans ton dos depuis 7 ans, Sacha. Mais
et Pierre, vous êtes président de la commission des lois, il y a des 49-3 à gogo.
Non, alors pas sur les lois.
En tout cas.
Il n'y a aucun texte de la commission des lois qui est passé au 49-3. C'est seulement les textes budgétaires. Mais parce que ça met.
Et ça ne vous dérange pas, cette logique parlementariste, anti-parlementariste?
Mais non, mais ça met tout le monde devant ses responsabilités. Est-ce que vous considérez que Michel Rocard était anti-parlementariste?
Non, mais Michel Rocard,
il n'a jamais fait de 49-3 avec des millions de personnes dans la rue. C'est ça la réalité.
C'était pas tout à fait.
D'accord, il a fait des 49-3 sur tous ses budgets, et y compris la CSG. Il a fait par 49-3.
Jamais avec des millions de personnes.
Très différent à l'époque, il n'y avait pas de motion de censure qui était déposée.
Mais d'accord, mais pour le coup, en attendant, quand il y a une majorité relative, qu'est-ce qui distingue si vous êtes dans la majorité ou si vous êtes dans l'opposition? C'est le vote du budget. Donc, évidemment, l'opposition, elle ne vote pas le budget. Donc, évidemment, si vous ne pouvez pas compter sur l'opposition, vous avez un 49-3. Ou alors, on dissout et on retourne aux urnes, si vous voulez.
Tout à l'heure, Safia a parlé de portes ouvertes sur des thématiques de l'extrême droite qui sont aujourd'hui appliquées par le Parlement. Il y en a une, et pas des moindres, qui a été lâchée par le ministre de l'Intérieur. C'est la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Mmh. Vous revenez de Mayotte. Vous étiez à Mayotte avec Élodie Jacquier-Laforge. Et sur place, vous vous êtes prononcé, si j'ai bien compris, contre la remise en cause du droit de...
Ouais.
Donc, c'est encore un truc sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement.
Mais parce que, en fait, il y a plusieurs choses. Enfin, je pense que Mayotte, d'abord, il faut aller voir pour comprendre ce que c'est. Mayotte, il faut comprendre que... Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a une pression migratoire folle. Mais il y a tout. Il y a une pression migratoire, une pression démographique, il n'y a plus d'eau. C'est le territoire le plus pauvre de la République. Pour vous donner une idée, le PIB par habitant à Mayotte, c'est 9 000 euros. PIB à La Réunion à côté, c'est 21 000 euros. Et pourtant, dans l'océan Indien, là où il se trouve, dans le canal du Mozambique, c'est le pays de très, 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 très loin. En tout cas, le plus riche, parce qu'aux Comores, c'est 700 euros, et à Madagascar, c'est 360.
Ça répond
pas à la question. J'y viens. Okay. Donc, ça veut dire qu'à Mayotte, est-ce qu'il y a besoin d'un droit d'exception? Oui. Évidemment, il faut faire tout exceptionnel. Il y a des reconnaissances frauduleuses de paternité, il y a des types qui touchent 1500 euros pour connaître des gamins qui ne sont pas les leurs. Les lycées, la norme, c'est 2600. Il faut faire des trucs parce que c'est vraiment grave de chez grave. En revanche, est-ce que le droit du sol, ça sert à quelque chose? Non. Non, parce qu'en fait, vous allez aujourd'hui faire des retirer...
La remise en cause du droit du sol, oui. Vous voulez dire. Oui.
La remise en cause du droit du sol, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, vous allez retirer des papiers à des mecs qui viennent pas pour des papiers parce que si vous êtes, ils sont plus riches. Donc, est-ce qu'ils vont arrêter de venir pour autant? Non. Est-ce que, par contre, avec les Comores, on a une relation qui est équilibrée? Non. Est-ce que les Comores sont manipulés par la Russie aujourd'hui pour agiter le levier migratoire? Oui. Voilà. Et donc, tout ça, on l'a montré. Donc, moi, ma réponse, c'était notamment la loi ingérence, pour qu'on puisse sourcer tout ça, pour qu'on puisse lutter contre tout ça. Et puis après, on a fait toute une série de réponses avec Élodie, Jacquier Laforge, donc, qui est députée du MoDem, rapporteur pendant 5 ans des budgets sur l'immigration, pour qu'on équipe mieux. Rendez-vous compte, à Mayotte, on a déployé des policiers partout. Il n'y avait pas de coordination entre ceux qui sont dans les avions pour surveiller, dans les bateaux pour contrôler, ou sur terre pour interpeller. Voilà. Bon, bah, on peut peut-être faire un peu mieux avant de faire des choses qui remettent en cause tout l'équilibre de la nation.
Sacha ?
Vous avez dit tout à l'heure que vous souteniez depuis 2015 ou 2017 une ligne politique. La Macronie, c'est aussi une pratique du pouvoir qui nous a été promise. On s'est retrouvés là avec une assemblée qui... Enfin, à visu, en tout cas, a peu de pouvoir sur des textes majeurs, avec l'enchaînement des 49-3, un dialogue rompu avec les corps intermédiaires, des tentatives de consultation des citoyens qui n'ont pas donné grand-chose. Est-ce que vous n'avez pas été flouté non plus sur cette pratique du pouvoir?
Alors, je pense que sur les tentatives de consultation des concitoyens, je pense que pour le coup, c'est là où il y a eu le plus d'innovation malgré nous. Sur ce sujet, le grand débat, quoi qu'on en pense et quoi que ça puisse, non mais quoi qu'on en pense, c'est quand même le sujet qui met sur la table toutes les familles monoparentales et donc le paiement des pensions alimentaires directement aux femmes, même quand le mari il le fait pas. Voilà, bah, c'est peut-être un détail pour beaucoup de gens, mais ça a changé énormément de choses.
Pour ça qu'il faut libérer les cahiers des doléances d'ailleurs.
Il n'y a pas de problème sur le coup. Mmh. Moi, je suis pas contre cette idée-là. Les conventions citoyennes, c'est pareil, la convention citoyenne sur le climat, on dit qu'il y avait rien. Mais dès qu'on applique une mesure de la loi climat, vous appliquez les ZFE, donc les zones de faible émission dans les villes. Ça fait une polémique mondiale, enfin, en tout cas, ça fait une polémique incroyable dans le pays parce qu'on dit que c'est trop important. Le zéro artificialisation net, on dit qu'on n'a pas le droit de construire de l'étalement urbain. Polémique aussi parce qu'il paraît que c'est trop important. Le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, qui dit qu'on ne peut pas louer les passoires thermiques. On nous dit que c'est insurmontable dans la mise en œuvre. Ça veut dire que dans cette loi, et je vous cite que 3 exemples, il y avait quand même des choses qui étaient musclées. De la même façon, on va réussir à avoir une loi fin de vie. Parce qu'il y a une convention citoyenne. Il y a un truc qui a raté, c'est le CNR. Voilà,
c'est le national de la refondation. Oui, on est d'accord, ça a raté.
Ça a raté vis-à-vis du grand public. Par contre, ça a permis de se faire parler des administrations qui travaillaient qu'en silo les unes à côté des autres.
Ça, c'est déjà ça pour ouais, connaître l'interministériel.
Vu les aberrations qu'on peut voir en tant que parlementaire sur le fonctionnement de l'administration, je pense que c'est quand même pas anecdotique.
Mais on est d'accord que la pratique du pouvoir vendue par la Macronie en 2015-2017 n'est pas celle qui est pratiquée actuellement.
L'horizontalité, tout ça, le truc.
Moi, je vous le renie pas. Il y a un truc quand même qui change et qui, là encore, c'est peut-être aussi malgré nous, hein, c'est la majorité relative. Et donc, c'est la place du Parlement. Et donc, c'est la place que nous, on peut avoir ou faire voter des choses contre l'avis du gouvernement.
Comment vous réagissez, vous êtes président d'une commission, quand vous entendez le président de la République dire « c'est pas grave, on va passer par décret et par règlement ». Bah, c'est quand même passer outre le Parlement, en fait, tout simplement.
C'est évidemment pas acceptable ou pas agréable pour le président de la commission des lois que je suis. Et c'est pour ça que nous, on dit « tant pis, on va pas se passer par proposition de loi ». Pourquoi vous avez autant de propositions de loi aujourd'hui? Pourquoi c'est par une proposition de loi de Mathilde Panot puis de Aurore Berger qu'on fait la constitutionnalisation de l'IVG? C'est parce que précisément, on a aussi ce levier pour dire, puisque vous voulez vous passer de nous, et ben on va revenir par la fenêtre. Voilà. Et donc, la question des ingérences étrangères était une proposition de loi. La question d'un jeune impermis qu'on a inauguré aujourd'hui, ou de l'élargissement du permis au CPF pour les permis moto ou pour tous les permis, ou l'ajout d'examinateurs pour que les délais baissent, pour qu'on puisse passer le permis, proposition de loi. Et à chaque fois qu'on trouve des angles morts ou qu'on est en désaccord avec le gouvernement, on passe aussi par des propositions de loi.
Juste une petite question. C'est vrai qu'on a essayé de vous exfiltrer de la présidence de la commission des lois?
Ça, c'était en l'été de 2023.
Pourquoi?
On m'a proposé le ministère des Outre-mer en délégué, et pour le coup, je ne l'ai pas accepté.
Mais c'était pour vous détacher de la présidence de la commission des lois?
C'est ce qui se raconte, mais je ne saurais jamais si c'est le mot de la fin.
On a compris. Malek?
Attends, est-ce que moi je suis encore sous le choc de cette proposition-là? Oui, là, je passe son tour parce que je suis en train de choc du ministère des Outre-mer. Je suis désolé, j'avais
autant pour moi. Autant pour moi, non. On avait une question aussi sur
les Outre-mer aujourd'hui, c'est les territoires qui sont les plus en difficulté de la République parce qu'ils sont, ce sont les territoires les plus attaqués par les tentatives de déstabilisation. Regardez les photos de portraits azerbaïdjanais portés par une partie des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Regardez la façon dont on est exposé sur ce sujet. C'est là où il y a le plus de taux de chômage. C'est là où il y a le plus de problèmes de santé.
À cause de la colonisation française, monsieur. C'est trop facile de mettre ça sur l'ingérence internationale.
Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, ils ont voté pour être français il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques années.
En Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, en réalité, se retrouvent en minorité à cause de la colonisation française, qu'ils essayent d'avoir une autonomie.
Ça n'est pas
qu'aujourd'hui,
vrai.
Il y a le problème du chlordécone dans les Outre-mer, dont on se fout royalement. Et qu'aujourd'hui, Mayotte, en réalité, si on est dans une telle situation de déstabilisation, c'est justement parce qu'il y a un régime d'exception. Et que tolérer ce régime d'exception, bien que vous ayez. Était contre la remise en cause du droit du sol. Ce régime d'exception, c'est par essence un régime colonial. Quand il y a exception quelque part, c'est qu'il y a colonisation.
Après, la Calédonie a voté trois fois contre son indépendance.
La Nouvelle-Calédonie, ils ont voté trois fois pour être français. Et par ailleurs, avec un corps électoral qui ne leur est pas favorable, parce qu'il est davantage favorable aux indépendantistes aujourd'hui. Et ensuite, ça veut dire que vous avez des gens qui sont nés sur l'île, qui habitent depuis 20 ou 30 ans et qui ne peuvent toujours pas voter en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a fait la part belle à ceux qui étaient les populations dites autochtones. Ensuite, sur Mayotte, ils ont choisi d'être français et je peux vous garantir qu'à Mayotte, vous y allez, ils veulent tous la fin du droit du sol pour ne pas voir venir les Comoriens. Et quand on leur explique que nous, on est contre pour l'unicité de la République française, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et donc, à Mayotte, pour le coup, ils assument très bien d'être français. Ensuite, il y a des mouvements de revendicatifs, effectivement, vous le dites, aux Antilles, en Guyane, ou sur ces questions. Il y a eu des vraies fautes de la République, vous l'avez dit, sur le chlordécone, notamment aux Antilles. Et ça, on peut l'assumer, on peut regarder les facultés d'indemnisation. Mais aujourd'hui, dire que les Outre-mer iraient mieux en étant en dehors de la France, moi, je pense que c'est vraiment une folie.
Et parce non, mais là, je parle surtout des causes-conséquences.
Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, le fait que tous ces Outre-mer soient françaises, c'est quand même un vrai avantage pour les habitants.
Malek,
tu es président de la commission des lois qui est censée être garante protectrice des libertés. On avait un combat commun qui, je pense, est toujours le nôtre, c'est la lutte contre l'extrême droite. Et pourtant, entre 2017 et 2022, Marine Le Pen a fait un plus gros score en 2022 qu'en 2017. Et là, on arrive aux élections européennes avec Jordan Bardella qui, les sondages l'annoncent à un taux comme on en a rarement vu. Est-ce qu'il n'y a pas un constat d'échec ?
Forcément, je ne vais pas te dire qu'on en a gagné alors qu'on est loin derrière. En revanche, est-ce qu'aujourd'hui, on a amélioré le chômage des jeunes ? Oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans une meilleure situation. Est-ce qu'on a fait une réforme des bourses qu'on promettait aux gens depuis 30 ans, notamment à la fois sur l'effacement des seuils et aussi sur l'augmentation des bourses ? Oui. Est-ce qu'on a travaillé aussi sur des mesures qui sont... je vous ai cité la loi climat. Je rappelle encore qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui la climat. Pour l'intégralité des Français, à chaque fois qu'on applique une mesure, c'est déjà trop. Voilà. Donc, est-ce qu'on est allé loin sur ces sujets-là ? Oui. Donc, est-ce qu'on a porté des combats politiques qui représentent les sensibilités auxquelles toi et moi on a appartenu, et en tout cas qui, moi, j'identifie comme étant aujourd'hui le centre-gauche? Oui, je pense qu'on a toute une série de choses dont on peut être très fier et avoir la tête haute sur cette question. En revanche, est-ce qu'il y a aussi un débat politique qui fait la part belle aux idées de l'extrême droite? Oui aussi. Voilà, on parlera certainement de stup aussi sur cette question.
Oui.
Mais ça, c'est un... Il y a toute une partie où on ne peut pas mener la bataille tout seul. Et par ailleurs, il y a une folie qui est la façon dont les forces qui pourraient s'entendre ou qui devraient s'entendre à l'allemande préfèrent se faire la guerre entre eux plutôt que de taper sur ceux qui, à mon avis, sont dangereux. D'un côté, l'extrême droite et de l'autre côté, l'extrême gauche. Je fais souvent une analogie. Oh. Non, mais.
Pardon, c'est un peu facile de dire ça.
C'est un peu chaud quand même de les renvoyer dos à dos, les deux.
Non, mais enfin, pardon, mais quand vous entendez.
Il y en a qui sont universalistes, qui sont défenseurs de la République.
Il faut voir les votes à l'Assemblée. Enfin, souvent, ils votent main dans la main, les amis. Enfin,
pour les mêmes raisons. Non, ils votent pas main dans la main, ce n'est pas vrai. Non, c'est pas main dans la main qu'ils votent.
Mais quand
ils votent de manière similaire.
Quand ils s'applaudissent les uns et les autres, si, moi, je suis désolé, ils votent main dans la main, ça.
Quand la loi immigration est votée avec les voix du RN.
Mais quand la motion de rejet préalable sur les mesures que j'ai défendues, je vous ai dit qu'elle avait été votée par.
Mais heureusement qu'il y a des voix dans la majorité comme celle de Clément Beaune qui sont en total désaccord avec ce que tu dis et qui ne mettent pas d'équivalence entre ce que tu appelles l'extrême gauche.
J'ai pas dit que je mettais une équivalence, j'ai dit qu'il y avait un problème avec l'extrême droite et qu'il y avait un problème avec l'extrême gauche. Parce que je pense que l'extrême gauche, aujourd'hui, les propositions de Jean-Luc Mélenchon, elles sont celles qui interdisent un retour de la gauche au pouvoir.
Alors Mélenchon, c'est pas l'extrême gauche.
Comment est-ce que vous positionnez sur le fait que le legs politique d'Emmanuel Macron sera sans doute l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen ?
Bah, si on se dit 3 ans avant que c'est fini et qu'on a perdu,
on va vers ça.
Non, mais on rentre chez nous dans ces cas-là. On met la main dans les poches.
Le fait que monter dans les sondages, elle est complètement acceptée dans le paysage politique. Ouais. Le gouvernement fait rien, ouais. Dans le paysage médiatique.
Mais est-ce que c'est que le gouvernement qui doit faire? Ou est-ce qu'on est tous responsables
de ça? Oui, c'est au gouvernement.
Non, mais
on
est pouvoir. Hein. Enfin,
non, mais ça, c'est pas nous dire à nous qu'on est responsable.
Je vous dis pas que vous êtes responsable. Je vous dis, est-ce qu'on se dit collectivement, c'est au gouvernement, c'est lui, et puis c'est bon. Dans ce cas-là, moi, je suis pas au gouvernement, et puis on se débrouille, quoi. C'est pas
mais
grave.
Vous nous avez demandé de voter pour vous en vous vendant comme le rempart à l'extrême droite. Il y a quand même une grosse part du taf, je veux pas dire. Hein. Ouais. Bon, rempart, finalement, marche-pied, voilà, c'est juste ça.
Bah, moi d'abord, j'ai pas l'impression d'être le marche-pied de l'extrême droite. Je pense que je prends suffisamment sur moi, y compris dans les désaccords que vous avez pointés sur cette question. Ensuite, j'ai redit que. Y compris, je me suis fait engueuler parce que je n'avais pas voté pour les équilibres politiques de l'Assemblée sur ces questions-là. Donc, et encore une fois, je ne suis pas sûr que l'extrême droite y soit ultra favorable à ce que je dis sur la loi climat, au développement de l'énergie éolienne, aux régulations européennes, au transfert de compétences qu'on a fait en matière sanitaire, en matière d'impôts ou en matière de plan de relance. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on a aussi porté l'offensive qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, les opinions de l'extrême droite.
Dernière question, c'est quoi votre avenir à vous personnellement ? Vous allez continuer à être président de la commission des lois jusqu'à la fin du mandat. Vous aspirez à faire quelque chose d'autre.
Mais là, Jean, vous me demandez d'avoir une boule de cristal à Madame Irma. Enfin, franchement.
Non, mais c'est quoi vos envies? C'est quoi vos ambitions?
Moi, quand j'étais avant d'entrer à la fac, je voulais être avocat. Donc, je suis devenu ensuite. Ensuite, quand j'étais jeune étudiant, je me dis un jour, je serai député. Donc, je me pensais plutôt à 50 ans ou 60 ans que à 28. Et après, si je dois vous donner mon troisième rêve, c'est président de l'Olympique de Marseille. Alors, je ne sais pas si ça arrivera un jour. Non, mais
tu veux déloger pas.
C'est important d'avoir des rêves.
Mais sérieux, mais enfin, donc est-ce que je resterai dans la politique après? J'en sais rien. Enfin, honnêtement, je sais pas. Et après, peut-être que j'aurais envie de rester dans la politique pour localement aller faire quelque chose pour ma ville, pour rester au Parlement pour mener le combat si jamais le désastre que vous me prédisez arrive. Enfin, sincèrement, j'en sais rien.
Merci beaucoup, Sacha Houlié, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci d'être venu.